Session sur Marie Harimon, cinquième conférence, le 23 avril 1994, première conférence du Père Marie-Dominique Philippe.
J'espère que vous verrez l'unité et que vous ne serez pas trop désemparés. Et en même temps, vous comprendrez, c'est peut-être le propre du mystère de Marie. C'est comme un grand secret de l'Esprit Saint. C'est Saint Jean Eudes qui dit ça, qui aimait beaucoup le cœur de Jésus et le cœur de Marie, et qui souligne qu'il y a un lien très mystérieux. C'est pas dit dans l'Écriture, quoi que ce soit dit dans l'Écriture, avec Saint Luc. Un lien très mystérieux entre Marie et l'Esprit Saint. Puisque la plus grande œuvre qui s'est réalisée dans l'univers, l'œuvre la plus parfaite, c'était le mystère de l'incarnation, qui est une réalité de ce monde et qui est en même temps directement de l'Esprit Saint et de Marie. C'est unique dans le point de vue d'une théologie de l'économie divine. N'oublions pas que Vatican II nous demande de reprendre toute la théologie dans la lumière d'une théologie d'économie divine. C'est pour ça que Vatican II parle tellement de Marie. C'est le concile qui en a parlé le plus. Alors on dit toujours concile pastoral. On va peut-être dire concile de Marie. Mais ça passerait moins bien. Alors on cache. Mais c'est le concile qui a parlé le plus de Marie. C'est très important pour nous, ça, de comprendre que l'Église, actuellement, dans ce concile Vatican II, où le Concile apporte un complément merveilleux au Concile de Trente. C'est dit explicitement, hein. Et ça a été redit après, dans la manière de comprendre Vatican II, et de voir la place de Marie. Vous voyez, le Concile de Trente met la place des sacrements face aux protestants, face à la Réforme. Il ne parle pas de Marie. Et Vatican II, alors, parle de Marie d'une manière très étonnante. Et on pourrait commencer tout de suite par Vatican II, pour le mystère de Marie. Puisque pour nous, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, un trésor pour nous, qui est très particulier. Il faut tout le temps, autrement on n'est pas entièrement catholique. On retourne à l'Écriture et on voit l'enseignement actuel de l'Église. Il faut toujours avoir un pied sur la terre et sur la mer. Et c'est dit pratiquement dans toute la tradition de l'Église. Il y a deux sources. Il y a l'Écriture et la tradition. Deux sources à la révélation. Alors si vous ne prenez qu'une source, c'était l'erreur de la Réforme de ne prendre qu'une source. Et nous devons prendre les deux sources. Et pour le mystère de Marie, c'est particulièrement important. Parce que c'est le mystère de la femme. Vous voyez, pour cette trouve aujourd'hui les mêmes objections très anciennes à l'égard du mystère de l'incarnation que toujours été dites. Vous voyez, quelqu'un comme Merleau-Ponty, un philosophe très respectable, bon, il est au ciel maintenant, j'espère bien. Merleau-Ponty, reçu au Collège de France, dit ouvertement, l'incarnation, c'est impossible.
Les enfants.
c'est peut-être le sommet de la tendresse de l'économie divine, ça. Pour moi, c'est le sommet de la tendresse. C'est tellement extraordinaire. Et quand vous regardez attentivement, vous voyez que Marie va au temple pour observer la loi, alors qu'elle est exempte. Marie aurait pu faire appel à son droit légitime, religieux. Elle est exempte de la loi. Étant donné la naissance particulière de Jésus, et la loi du Lévitique ne touche pas Marie, et Marie l'observe. Donc c'est l'humilité de Marie, ne pas faire appel à ses droits. Ça, c'est la pauvreté de Marie. Et le vieillard Siméon, ému par l'esprit. Oui, nous, au point de vue de notre logique à nous, on aurait dit l'inverse. Le vieillard Siméon est là pour observer la loi, parce que c'était le jour où il devait observer la loi, et que Marie est poussée par l'esprit. Alors c'est inversé, c'est étonnant ça. Je trouve ça très beau, parce que c'est le jeu de Dieu entre la loi et l'Esprit Saint. Pour nous faire comprendre que la loi est bien l'Esprit Saint. Pour qu'on comprenne ça. Et ils se trouvent face à face. Et le vieillard Siméon exulte de joie. C'est son magnificat. Et le magnificat du vieillard. Parce que Dieu a écouté sa prière. Il est en face de celui qui va tout reprendre, source du salut. Et sa prophétie sur Jésus, qui est une prophétie rude. Puisqu'il annonce qu'il ne sera pas très bien reçu. Il annonce ça. Et c'est pas commode pour une mère d'accepter ça, que son fils, qui est le fils de Dieu, ne sera pas très bien reçu. Il a ce regard très profond. Au fond, c'est le premier qui découvre en Jésus l'agneau. Ce qu'il ne faut pas oublier, hein, n'oubliez pas ce que les exégètes, les bons exégètes de Saint Jean disent. Qu'il y avait les deux grandes traditions sur le Messie. La tradition de ceux qui disaient que le Messie venait comme libérateur temporel. Et ceux qui disaient que le Messie venait comme l'envoyé du Père, comme sauveur, au point de vue divin. Il y avait les deux traditions. Et le vieillard Siméon voit tout de suite la grande tradition du serviteur douloureux d'Isaïe. Celle que Jean-Baptiste verra. Qu'il y a un lien entre Jean-Baptiste et le vieillard Siméon. C'est que tous les deux voient la grande tradition de l'agneau. Ça, c'est très beau. Et c'est très grand. C'est quelque chose de merveilleux. Et le vieillard Siméon prophétise le nunc dimittis. Le vieillard Siméon prophétise sur Jésus. Il sera un signe en butte à la contradiction. Et c'est vrai. Est un signe en but à la contradiction. Pourquoi ? Parce que c'est la gratuité pure et que les hommes ne peuvent pas accepter la gratuité pure. réfléchit s'achève dans le cœur de Marie. Alors là, on voit la complémentarité qu'on verra ensemble. Marie au pied de la croix. Mais c'est bon de se rappeler ça. Et comme ça a été dit hier, j'embraye de cette manière-là, tu vois, pour que nous puissions entrer dans ce qui est annoncé par le vieillard Siméon. Un glaive te transpercera. Vous voyez, c'est curieux. Marie est montrée comme fiancée à Joseph. Marie est montrée comme la mère de Dieu dans Saint-Luc. Il y a une double relation. Marie à l'égard de Joseph. Joseph, descendant de David. C'est pour ça que Marie est descendante de David. J'ai demandé ça au père Feuillet, qui est un des meilleurs exégètes d'aujourd'hui, hein, pour ne pas dire le meilleur carrément. Et le père Feuillet m'a dit, oui, on peut exégétiquement dire que Marie est descendante de David. Puisque quelqu'un qui est descendant de David ne pouvait épouser que quelqu'un descendant de David. Puisque le Messie devait venir de la race de David. Donc Marie, reliée à Joseph, c'est pour nous montrer ça. Hein. Fiancée à Joseph. Et Joseph, fils de David. Donc il y a cet enracinement de Marie dans tout le point de vue de David. Alors, on voit comment toutes les prophéties, dit Saint Jean Eudes, s'achèvent dans le... Toutes les prophéties qui regardent le Messie s'achèvent dans le cœur de Marie. Alors vous voyez, il en reste là qui serait extrêmement beau à voir. J'ai toujours rêvé. Alors, ce serait un soubassement, vous voyez, à une session théologique sur Marie. Toutes les prophéties messianiques, les grandes prophéties messianiques, je pense surtout à Isaïe, le serviteur de David, le serviteur de Dieu, de Yahvé, s'achève dans le cœur de Marie. Donc toutes les prophéties qui regardent le Messie nous disent quelque chose de Marie. Et cela, je crois que c'est la grande tradition. Et Saint Jean Eudes ajoute cette chose très belle, c'est la petite remarque d'un saint. L'Esprit Saint aime tellement Marie. Il est lié à elle d'une manière étonnante que il parle toujours d'elle et d'une manière cachée. Et c'est vrai ça. L'Écriture explicitement parle très très peu de Marie comme d'un secret. Mais ce qu'elle en dit est assez extraordinaire. C'est ce qu'on doit essayer de comprendre. Surtout avec la lumière de Vatican II. Qui met le mystère de Marie à propos de l'économie divine à sa place première. Dans l'économie divine, Marie tient la première place parmi toutes les créatures. Et donc, elle est celle qui doit faire comprendre le mystère de la création qui s'achève dans le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption qui nous fait comprendre comment la création achevée par l'incarnation est totalement reprise par le mystère de la croix et de la gloire. Et Marie est là, place première dans le mystère d'incarnation. Et Marie est là, place première, évidemment, toute relative à Jésus. Jésus est Dieu, et Marie est une petite créature comme nous. Elle est notre sœur dans l'humanité. présente dans le prologue. Et le verbe est devenu chair. C'est quand même une force étonnante comme affirmation. Et le verbe est devenu chair. Et ceci, c'est pour montrer les diverses alliances qui existent. Regardez bien le prologue. Quand on parle de l'évangile de Jean, il ne faut jamais oublier le prologue, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Ce prologue, on a tellement discuté sur le prologue, hein, tellement discuté. Il y a une période où on disait le prologue n'est pas de Saint Jean. Il faut laisser les critiques toujours bavarder, parce qu'ils aiment de trouver des choses originales. Je me souviens, le bon père Braun, qui est mort maintenant, alors je peux le dire, qui était exégète à Fribourg, à l'université de Fribourg. Et le père Braun, qui était un merveilleux exégète, moins pénétrant que le père Feuillet, mais un très bon exégète. Il faut lire son exégèse sur Saint Jean. C'est très beau, c'est très très grand. C'est une grande taille d'exégète et de théologien. Je prêchais une retraite en Belgique, bénédictine missionnaire. Et alors le père Braun arrive. Il dit, sur quoi prêchez-vous? Je dis, je prêche sur le prologue de Saint Jean. Parce que j'aime beaucoup de prêcher sur le prologue de Saint Jean. Il est tellement grand. Alors il ajoute tout de suite, oui, le prologue qui n'est pas de Saint Jean. Je dis, mon père, qu'est-ce que vous avez dit? C'était avant le concile. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin? Vous avez dit à la fin de la messe l'évangile de Saint Jean, et vous l'avez dit en latin, mais vous l'avez compris. Initium Evangelii secundum Johannem. Et vous avez récité le prologue secundum Johannem. Alors vous avez menti à la fin de la messe. C'est grave. Comme fruit de la messe, vous avez menti. Alors il m'a dit, il était remis devant la tradition. Alors vous voyez, il y avait le savant qui discutait. Et dès qu'on le remettait devant la tradition, très bien, on va l'enlever. Il faut quand même comprendre que la tradition est l'œuvre des saints et de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint et des saints, la tradition de l'Église. Et source de révélation. Quand pendant 2000 ans, l'Église a toujours considéré que l'évangile de Jean est de Jean. Et que le prologue, je comprends très bien que le prologue déroute les exégètes, parce qu'ils n'ont rien à dire. Était le verbe. C'est une révélation étonnante. Regardez les débuts. vérité, j'oublie qu'il y a cette alliance fondamentale entre le Verbe de Dieu et mon intelligence. C'est le prologue de Saint Jean qui me donne le sens vraiment chrétien de l'intelligence. La révélation. Et vous avez cela. Il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Verset 11. Il est venu chez lui. C'est donc la venue du Verbe, la venue du Logos, par la révélation. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni du vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme et de Dieu. Ah ! Le terme de cette alliance avec le peuple d'Israël, c'est Marie. L'Immaculée. C'est merveilleux, c'est une reprise radicale de tout. Nouvelle du Verbe. Et Marie, elle l'a reçue. Donc elle est enfant de Dieu. Et le Verbe est devenu chair. Ah, troisième alliance. Il faut bien ponctuer ces trois alliances. Très très important. L'alliance commune. Au Verbe de Dieu. L'alliance dans la foi, la révélation. Et l'alliance dans la chair, pas seulement la parole, mais la chair. Et le Verbe est devenu chair. C'est pas seulement un passage, un éclairage, c'est quelque chose de bien plus fort. Et le Verbe est devenu. Or, si je dis « et le Verbe est devenu chair », cette chair, elle vient de qui ? Elle vient de Marie. Par l'opération de l'Esprit-Saint. Donc, voyez la présence de Marie, le terme de la seconde alliance et celle qui est source sous l'action de l'Esprit-Saint. De ce mystère de l'incarnation. Et le Verbe est devenu chair. Et Genéto Sarx. Vous voyez, heureusement que c'est révélé. Hein, parce que jamais un théologien n'aurait osé dire ça. Il est devenu chair. Vous comprenez bien que le Verbe qui est éternel, comment il peut devenir chair ? L'incarnation. Le scandale de Merleau-Maudit. Il est devenu chair. Ça, c'est l'expression la plus forte du mystère d'incarnation. Et c'est dans le prologue de Jean. Il a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Gloire comme celle qu'il tient de son Père, un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors voyez, le mystère de Marie présent dans le silence. L'alliance du Verbe et de la chair implique la présence de Marie. Parce que ça montre combien le mystère de l'incarnation a été proche de nous. Le Verbe par Marie a vécu tout ce que l'embryon vit. Humaine. Dieu aurait pu créer un nouvel Adam, un nouvel homme, venant du ciel, descendu du ciel, parachuté la nuit. l'énonciation, il y a le verbe devenu faire. Et l'annonciation montre comment ce mystère du verbe devenu faire s'est réalisé avec Marie. L'évangile de Jean nous montre Attentivement le texte de Cana, chapitre 2 dans crié Jésus. Ils sont à Nazareth. Marie dit que Jésus n'est plus là. Il est sans doute à tel endroit. Alors, nouvelle invitation, donc on dit tenez. Et Jésus dit qu'il ne peut pas venir tout seul. Un bon maître de novice, hein, mes novices avec moi. C'était pas prévu, les apôtres. C'était pas ceux qui connaissaient Cana. Donc, troisième invitation. C'est très beau, ces petits détails. L'évangile de Jean, c'est mot à mot. Et comme disait quelqu'un qui connaissait parfaitement l'évangile de Jean, il y a des silences dans l'évangile de Jean. Il faudrait pas éditer l'évangile de Jean comme on le fait. Il faudrait l'éditer poétiquement, mystiquement. Alors, il y a des silences. C'est vrai, la mère de Jésus était là, en dessous, à Jésus, et en dessous, les disciples, parce que c'est quand même important, de voir cette triple invitation. On veut à tout prix que Jésus soit là, ça c'est net. Vous savez, aux noces, hein, il y a des gens qu'on est obligé d'inviter, ils peuvent pas venir, tant mieux, il y aura plus de place. Puis il y a des gens qu'on veut qu'ils soient là. Et j'en montre qu'on voulait que Jésus soit là. Et donc on fait une seconde invitation pour Jésus, propre à Jésus. Et on fait une troisième invitation pour les disciples. Alors je ne sais pas si Jésus était là avec les douze. On n'a pas parlé des douze, on a parlé que de cinq. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que les douze soient là. C'est possible. Je n'en sais rien. Ils étaient là. L'important, c'est que Jean, le Benjamin des disciples, le plus jeune, soit là. Et Jésus a sûrement présenté ses disciples à Marie. Pas possible autrement. Donc le premier regard de Marie sur Jean, le premier regard de Jean sur Marie, c'est à Cana. Dans ce climat de noces. Et quand vous êtes attentif à ce récit, vous voyez, à la fin du récit, tel fut le premier des signes de Jésus. Donc on ne dit pas miracle, on dit signe. Il le fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc première manifestation de la gloire de Jésus. Un miracle et un fameux. Et dans un climat particulier de joie, Jésus a commencé sa vie apostolique dans la grande joie des noces. Comme quelque chose, ça veut dire quelque chose. Hein. Un chrétien doit toujours inviter aux noces. Les disciples du Christ sont là. Ils sont invités aux noces. C'est pas que Jésus. Non, non. Tout de suite. Il y a un partage, comme on dirait aujourd'hui. Et Jésus a fait le partage. Il est invité aux noces, et puis il a fait que ses apôtres soient invités aux noces. C'est un merveilleux noviciat. Première action du noviciat, invité aux noces. On a c'est merveilleux d'avoir un permis comme ça. On est invité aux noces, on est là. Permet de dire, non, vous viendrez après, attendez. J'aurais pu dire, attendez-moi quelques jours, je vais jusque-là, parce que je suis invité, mais vous. Alors il aurait dit à Pierre, hein, tu les garderas, bien. Et alors après, c'est encore mieux. Après cela, il descendit à Capharnaüm. Alors voyez la carte, hein. Capharnaüm, Cana, et puis Nazareth. Après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère. Ah, voilà la première femme qui suit Jésus dans sa vie apostolique. C'est grâce à Marie qu'il y a les saintes femmes. Faut pas l'oublier. Et Marie descend avec Jésus à Capharnaüm. Elle ne retourne pas à Nazareth. Elle est peut-être retournée après, il fallait arranger les choses. Mais Marie a suivi Jésus dans toute sa vie apostolique. Si j'écoute ce que dit Jean, c'est du reste normal ça. Si Jésus va donc à Cana aux noces, c'est pour rencontrer sa mère. Et que sa mère le suit. possible. Ils y demeurèrent là que quelques jours. Capharnaüm, pourquoi Capharnaüm? C'était le lieu de Pierre. Il y avait la belle-mère à Capharnaüm. On a retrouvé le lieu de la belle-mère, Capharnaüm. Parce que ça dure toujours plus longtemps, les belles-mères. Oui. On voit très bien ça. Alors, à Capharnaüm, il y a le lieu, la maison. On a redécouvert ça, c'est merveilleux. Parce que c'est le premier lieu de la vie apostolique de Jésus. Il descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses frères. Je comprends que ses frères décident. Venez, toute la parenté, quoi, tous ceux qui étaient liés à Jésus, c'est ça, ses frères. Et ils se manifestent parce que Jésus est mis en pleine gloire. Être lié à celui qui change l'eau en vin, c'est quand même quelque chose. Et qui fait ça généreusement. Parce que les exégètes, ça, là, ils peuvent calculer la quantité de vin. Dans l'ordre de la quantité, ça va très bien. Alors, ils ont calculé 600 litres. C'est quand même quelque chose. Il y avait des vendeurs dans le coin, ils auraient pris de fameuses. Ils auraient dit à Jésus, faites pas ça, hein. Recommencez pas surtout. 600 litres. Là, c'est le petit détail aussi, n'est-ce pas? Quand Jésus multiplie le pain, il demande aux disciples de le ramasser. Quand il transforme l'eau en vin, il ne demande pas aux disciples de l'emporter. Parce que ce serait pas très apologétique, n'est-ce pas? Et ça, autour de Jésus, on va partir avec les 6, c'est peut-être 500 litres, on aurait pris 100 litres, 100 litres, mais le reste, tandis que le pain, oui, c'est quand même très très curieux ça. Il a commencé par le vin, il a fait après le pain, les deux grands miracles de la multiplication du pain lié au poisson. Et le vin n'est pas lié au poisson. Le vin, ça a suffisamment de tenue pour être tout seul. Et on transforme l'eau en vin. Premier miracle de Jésus. Et Marie est là. Et non seulement Marie est là, mais Marie joue un rôle important. Alors ça, c'est très curieux. C'est pour ça que Jean souligne, premier miracle. Jésus n'a pas commencé sa vie apostolique sans Marie. Alors qu'il a choisi ses apôtres, indépendamment de Marie. Il les a présentés à Marie, à Cana. Alors il y a quelques minutes maintenant de détente. Hein. Combien de temps? Un quart d'heure? Oui. C'est à quelle heure ça reprend?
Normalement ça recommencerait dans 5-6 minutes.
Oui, alors je vous accorde 5 minutes de plus.